Voilà, vous êtes comme chaque semaine prêt et prête à partir pour une heure en Palestine sur Radio Galère 88.4. Alors aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de cet article intitulé « Interdire l'espoir ou la vie et les épreuves de deux patients de Gaza » dans lequel Loubna Abou Hachem raconte l'histoire de Bachir, 34 ans, très malade, qui doit se rendre à Jérusalem toutes les deux semaines pour subir des séances de chimiothérapie et de radiothérapie à l'hôpital Augusta Victoria. Depuis son premier voyage pour un traitement contre le cancer en septembre 2022, sa mère, qui doit l'assister pour ses soins quotidiens, a été interdite de voyager avec lui à Jérusalem. J'aurais pu aussi vous parler de Malek, 8 ans, qui doit utiliser une sonde urinaire la plupart du temps. Depuis sa naissance, il souffre d'une vessie neurogène. C'est une vessie qui est un manque de contrôle du fait de problèmes nerveux, par exemple un accident vasculaire cérébral ou une lésion de la moelle. Et ce petit garçon, eh bien, doit être accompagné de ses parents, et son papa comme sa maman ont été interdits à 3 reprises de l'accompagner à Jérusalem pour les soins. J'aurais pu aussi vous parler du texte de Tamam Abou Salam, un texte du mois de février, du 10 février, sur les traumatismes transgénérationnels dans la bande de Gaza à travers l'exemple de sa famille. Pour elle, depuis les bombardements et les massacres de décembre 2008, janvier 2009, c'est la peur de la destruction de la maison, la peur de mourir sous les bombes, des angoisses, l'anxiété et des douleurs terribles ressenties depuis. J'ai commencé à avoir une douleur insupportable dans mon intestin, ainsi que d'autres symptômes désagréables, engourdissement dans les bras, boule dans la gorge, perte d'appétit, problèmes digestifs. Je suis allée voir un total de 7 spécialistes en Belgique où je vis maintenant. La plupart d'entre eux m'ont dit la même chose. Tu as été exposée à tant de traumatismes et de détresse. Sa mère a elle aussi eu des troubles du même type. Quant à sa grand-mère, qui s'appelait Tamam et dont elle porte le nom, c'était une femme charmante et résistante qui avait survécu à la brutalité de la domination britannique en Palestine, à la Nakba, à 2 intifadas et à de nombreux actes d'agression israéliens contre Gaza. Mais elle n'était pas invincible, personne ne l'est. Chaque fois qu'Israël attaquait Gaza, elle devenait très anxieuse. Ainsi, lors de l'invasion israélienne du sud de Gaza en 2006, nous pouvions entendre clairement les chars de chez nous. Ils ont fait un bruit strident, fort. Lorsqu'ils se sont approchés de la maison, ma grand-mère est allée à la cuisine et a récupéré tous les couteaux. Elle les a ensuite enterrés dans le jardin parce qu'elle avait peur que l'armée israélienne n'entre chez nous et ne nous poignarde avec nos propres couteaux. Des années plus tard, notre jardinier a trouvé les couteaux dans un sac de jute. Ils avaient été enterrés dans le sol. Ma grand-mère avait 2 règles pour nous quand nous étions petits-enfants, qui voulaient jouer de partout et tout le temps. Ne jouer jamais sur le toit et ne jamais jouer de la nuit. Elle avait peur que si nous ne suivions pas ces règles, nous serions la cible de l'occupation israélienne. Ma mère m'a expliqué une fois que ma grand-mère avait toujours eu peur des soldats israéliens, mais elle ne l'a jamais montré et elle les affrontait. Votre grand-mère a passé sa jeunesse à courir après ses 5 enfants qui purgeaient des peines dans les prisons israéliennes, a déclaré ma mère. À un moment, pendant la première intifada, 5 d'entre eux ont été emprisonnés en même temps. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Mes récents problèmes de santé m'ont fait prendre conscience de la façon dont les blessures infligées à ma famille par l'agression coloniale israélienne m'ont été transmises. Je me suis également rendu compte que les thérapeutes occidentaux qui traitent les Palestiniens en Europe ne voient pas l'image dans son ensemble. En se concentrant sur uniquement l'actualité, ils échouent à gérer les traumatismes intergénérationnels. Ils doivent aborder une série de problèmes, les traumatismes actuels et historiques et la manière dont ils se transmettent d'une génération à l'autre, l'impact collectif et individuel de tous les symptômes qui en découlent. Tamam Abou Salama, qui a écrit cet article, est un professionnel de la communication, élevé en Belgique. Son travail comprend la campagne pour les droits des réfugiés. Et cet article m'a paru particulièrement intéressant parce que récemment, j'avais lu un texte sur les traumatismes que subit la population ukrainienne après 1 an de guerre. Et oui, il y a des traumatismes après 1 an de guerre, alors vous pouvez imaginer ce que cela peut être après plus de 70 ans d'occupation et depuis des dizaines d'années de bombardements, d'agressions contre la bande de Gaza qui est devenue un camp de concentration où tentent de survivre près de 2 millions de personnes. J'aurais pu aussi vous parler de l'article de Ola Moussa, qui s'intitule « Les drômes ne dorment jamais ». C'est l'histoire que raconte Atala Al-Attar, 35 ans, qui vit dans la ferme familiale de la ville de Betlaya, au nord de la bande de Gaza, près de la frontière avec Israël. Il a une peur panique des drones qui viennent surtout le soir hanter le ciel de la ville. En mai 2019, il travaillait comme agent de sécurité dans une salle où avaient lieu des mariages à Betlaya. Il faisait une pause avec son ami Khaled Abouklik, 24 ans, quand ils ont vu et entendu des drones. Au début, ils pensaient que c'était uniquement pour faire de la surveillance de zones comme cela se fait quotidiennement. Mais soudainement, une explosion a fait un bruit énorme et les éclats du missile ont volé vers nous, a déclaré Abou Abtar. Des éclats d'obus l'ont touché à l'œil et aux jambes, la douleur était atroce. Mais il se souvient surtout des appels à l'aide de son ami qui prenait un café à proximité. C'est alors qu'Al-Attar recevait des soins pour ses blessures à l'hôpital qu'il a appris la mort de son ami. Un rapport plus tard de Human Rights Watch a constaté qu'aucune des personnes tuées ou blessées par la frappe israélienne n'avait de lien avec les groupes palestiniens armés, contrairement à ce que l'armée avait déclaré. Les médecins ont amputé le pied d'Al-Attar. Il marche maintenant avec des béquilles. Il a 4 enfants, mais il n'est actuellement pas en mesure de travailler, ni comme agent de sécurité, ni même dans la ferme familiale pour récolter des fraises ou des céréales. Les drones israéliens ne servent pas seulement à la reconnaissance et au meurtre. Ils sabotent également les fermes frontalières en pulvérisant des pesticides, a-t-il déclaré. J'ai déjà vu ça, et les drones me donnent une anxiété constante. Ils ont tué mon ami et ils ont failli me tuer. Le groupe de défense des droits humains Al-Misan a découvert que les drones israéliens ou véhicules aériens sans pilote ont tué au moins 2146 Palestiniens et endommagé 3332 maisons entre 2000 et 2022. L'État israélien a commencé à utiliser des drones dans les exécutions extrajudiciaires de Palestiniens en 2004, selon Al-Misan. Et près d'une décennie plus tard, ils sont devenus les armes les plus meurtrières, en particulier dans les assassinats et les attaques de foule. Les drones ont des temps de vol beaucoup plus longs, déclare Human Rights Watch, et certains sont capables de fonctionner en continu pendant plus de 24 heures. Le chercheur militaire Youssef Al-Sharkawi, un ancien militaire de l'autorité palestinienne, a déclaré que les drones les plus utilisés par les Israéliens à Gaza sont des drones tueurs fabriqués par l'entreprise israélienne Elbit. Ce sont le quadcopter et le Hermes 450T. Ce dernier effectuant une surveillance nocturne avec ses capteurs infrarouges et pouvoir transporter des missiles. Les drones prennent des vidéos, traquent et assassinent. Ils dirigent également des bombardiers, a-t-il déclaré. Israël cherche à développer ses drones pour avoir les drones les plus puissants du Moyen-Orient. Mais à Gaza, ce sont les armes les plus meurtrières et elles violent le droit international humanitaire. Le cauchemar des drones de 2014, la guerre d'Israël contre Gaza au cours de l'été 2014, a brutalement démontré la portée destructrice de ces drones. L'organisation Défense for Children International, section de Palestine, a trouvé des preuves suggérant que les forces israéliennes visaient directement des enfants cet été-là avec des drones, tuant au moins 164 d'entre eux. D'autres attaques menées par Israël dans toute la bande de Gaza visaient aussi beaucoup de civils. L'article de Ola Moussa, c'est un artiste et un écrivain qui vit à Gaza.
J'ai envie de vous parler du très bel article de Yuval Abraham, journaliste militant basé à Jérusalem. Le vol du corps, de la maison et de la vie de Harun Abu Aram. Mais j'ai préféré l'article de Gideon Levy, la mort scandaleuse de Harun Abu Aram. C'était l'une des images les plus horribles que j'ai rencontrées sous l'occupation israélienne. Sur le sol d'une grotte obscure gisait un jeune homme à l'allure agréable, ses jambes très minces soulevées sur une chaise en plastique, un tuyau de drainage de flingue planté dans son cou, la tête enveloppée dans une serviette, les yeux fermés, une couche sur les reins. Son père se tenait au-dessus de lui, essuyant la sueur de son visage, sa mère était assise dans un coin de la grotte. Son visage en disait long. Il est resté allongé comme ça, sans bouger, sans lit, sans électricité, et sans eau courante pendant 2 ans. 2 ans et 43 jours, pour être précis. Mardi matin, à 10h. Aaron à voir un mes morts. Depuis que je l'ai vu un été, une de ses jambes avait été amputée. Maintenant, les médecins étaient sur le point d'amputer la seconde. Il est mort à l'hôpital d'Hébron d'une infection qui s'était propagée dans son corps à cause des escarres causées par le fait d'être resté couché sur le sol de la grotte pendant 2 ans. Au cours des 2 dernières semaines de sa vie misérable, il a été hospitalisé à Hébron jusqu'à sa mort cette semaine. Lorsque nous lui avons rendu visite dans la grotte cet été, il faisait semblant de dormir. Quand il a finalement ouvert les yeux, il nous a seulement demandé de sortir. 1 an et demi plus tôt, le 1er janvier 2021, il a eu son 23e anniversaire. Ce jour-là, sa vie s'est arrêtée. Un soldat israélien lui a tiré dans le cou à bout portant et l'a rendu paralysé à partir du cou pour le reste de sa courte vie. Haroun avait tenté de sauver le générateur des voisins que le soldat était sur le point de confisquer par la force. Sans le générateur, il n'y a pas de vie dans la communauté des bergers Kirbet el-Rakis, au sud du mont Hébron. Haroun a essayé d'arracher le générateur des mains du soldat qu'il a abattu. Les forces de défense israéliennes affirmeront plus tard que le soldat a senti que sa vie était en danger. Un soldat armé a senti que sa vie était menacée par un berger non armé, qui ne voulait rien d'autre que sauver le générateur de ses voisins. C'est ce que prévoit le code de conduite des soldats des forces de défense israéliennes. Selon le code éthique de cette même armée, le soldat n'a jamais été jugé pour quoi que ce soit. L'enquête a été classée, le soldat a continué sa vie comme si rien de grave n'était arrivé. La punition minimale qu'il aurait dû recevoir était d'être obligé de rendre visite à sa victime, de la regarder en face et de savoir ce qu'il lui avait fait. Mais Haroun a été jeté et abandonné sur le sol de la grotte où vivent ses parents. Environ 1 an avant qu'il ne soit blessé, la maison de la famille avait été démolie par l'administration civile. Au cours des 2 années qui ont suivi, la même administration n'a pas permis à sa famille de construire une route d'accès pour permettre à Haroun d'être déplacé, ni de construire une pièce où il pourrait vivre dans des conditions un peu plus humaines. Cela, c'était avant que l'extrême droite et Bezalel Smotrich ne soient nommés ministres en charge de l'administration civile. Après la blessure d'Haroun, les autorités ont également retiré le permis de travail de son père pour la construction de routes en Israël par crainte qu'il ne se venge. Et la famille s'est retrouvée sans aucun soutien. Mais ce n'était pas la fin de leur souffrance. Israël a refusé de reconnaître la blessure d'Haroun et de financer ses soins médicaux et infirmiers, affirmant que l'État n'était pas responsable des dommages. Aucune responsabilité pour les dommages, aucune responsabilité pour quoi que ce soit, aucune culpabilité et aucune réparation. Vous cherchez le visage du mal israélien ? Sa victime a été jetée dans une grotte à Kirbet Razik pendant 2 ans. L'histoire d'Haroun n'a suscité aucun intérêt en Israël, à l'exception du médecin pour les droits de l'homme qui a collecté des dons pour l'hospitaliser en Israël pendant quelques mois, et d'un merveilleux groupe de volontaires israéliens qui se sont engagés à aider la famille. Ils ont continué à le faire avec un dévouement sans fin jusqu'à ces derniers instants. Hier, Arela du kibbutz Shoval a écrit sur Facebook qu'elle était sur le point de lui rendre visite à l'hôpital mardi. Mais lorsqu'elle a appelé son père pour coordonner la visite, on lui a annoncé son décès. La mère Farsi et le père Razmi, ses frères et sœurs, tous lui ont consacré leur vie et l'ont perdu aujourd'hui. Je l'ai perdu aussi, nous l'avons perdu. Il était comme un fils pour nous. Haroun est mort dans une terrible agonie. Il avait l'habitude de pleurer la nuit. Et pendant la journée, il fermait les yeux et faisait semblant de dormir. Israël aussi a fermé les yeux. Quelle honte.
Maintenant, on va faire une toute petite pause musicale avec un instrumental du duo Sabil. Emmène-moi, le duo Sabil, qui le 10 mars prochain sera à la Cité de la Musique à Marseille. Un petit moment pour avoir le duo Sabil. Thank you. Je voulais bien vous parler du massacre de Naplouse, mais finalement, je préfère vous parler du communiqué de la principale organisation de juifs antisionistes aux États-Unis, Jewish Voice for Peace, qui condamne la brutale intervention militaire contre les Palestiniens à Naplouse. Jewish Voice for Peace est solidaire du mouvement pour la liberté palestinienne pour mettre fin à la brutale et croissante violence étatique du gouvernement israélien. Les rapports depuis Naplouse, plus tôt aujourd'hui, sont effrayants. L'armée israélienne a réduit à décombre un bâtiment du centre de la ville et a laissé les devantures de magasins criblées de balles. Parmi les Palestiniens tués figuraient un enfant de 16 ans et un homme de 72 ans. Tout au long de l'attaque brutale, des informations ont affirmé que les forces israéliennes avaient empêché le personnel médical palestinien de soigner les blessés. L'attaque de Naplouse survient au milieu d'une année horrible et violente. Au moins 60 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes ou les colons israéliens depuis le début de l'année. Et 2022 a été l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée depuis 2004. Et déjà, cette année est encore plus violente et meurtrière. Le gouvernement israélien actuel, qui est le plus violent et le plus à droite de l'histoire d'Israël, se comporte exactement comme promis. Ce n'est pas un conflit ou un cycle de violence entre deux parties égales, c'est une armée qui terrorise un peuple occupé. La domination et l'oppression des Palestiniens par le gouvernement israélien sont à l'origine de chaque mort tragique. En tant qu'organisation juive américaine, nous sommes parfaitement conscients du rôle que jouent nos propres institutions et notre gouvernement dans la violence d'État en cours contre les Palestiniens. Nous continuons d'appeler la fin du financement militaire américain, et la fin de la complicité dans l'apartheid israélien. Et nous appelons nos compatriotes juifs américains progressistes à participer activement au mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions jusqu'à ce que les Palestiniens soient enfin libres. Et ce texte est signé par Stephanie Fox, directrice exécutive de Jewish Voice for Peace. Et puis en France, nous avons aussi le communiqué de l'association France-Palestine Solidarité. Nouveau bain de sang en Cisjordanie, soutien et protection pour le peuple palestinien, et qui revient sur les 11 morts de 16 à 72 ans et 102 blessés, dont 7 graves, 250 personnes asphyxiées. C'est le terrible bilan d'une nouvelle attaque des forces israéliennes dans la ville palestinienne de Naplouse, un assaut qui a duré plus de 3 heures le matin au moment du marché. Des dizaines de blindés ont pénétré dans la ville, des bataillons se sont répandus dans la vieille ville, tirant à vue sans distinction. Une maison a été criblée par les missiles. Des commerces et des écoles ont été touchés par des tirs de gaz lacrymogène et les habitants violemment pris à partie. La ville a été noyée pendant des heures sous un nuage de gaz lacrymogène. Les jeunes qui ont riposté à coups de pierre à cette nouvelle agression de leur ville et de sa population ont été ciblés par des tirs à balles réelles. Certains ont été abattus de sang-froid alors qu'ils essayaient d'échapper aux soldats israéliens qui, comme à leur habitude, ont également empêché le secours de venir à l'aide des blessés. Ce que l'État d'Israël présente comme une opération antiterroriste avec l'objectif d'éliminer purement et simplement des jeunes combattants qui résistent les armes à la main à l'occupation, c'est une fois de plus traduite par une attaque d'ampleur contre une ville entière et sa population. Une volonté préméditée de les terroriser par une démonstration de force autant criminelle que vaine. Criminelle parce qu'une fois de plus, il s'agit d'une punition collective, d'exécution extrajudiciaire qui s'attaque à toute la population, y compris les enfants et les personnes âgées. Vaine parce qu'une telle violence coloniale provoque légitimement chaque jour de nouvelles velléités de résistance, y compris armées parmi une jeunesse qui n'a plus rien à perdre et ne supporte plus les humiliations et la répression. C'est la société palestinienne tout entière qui est visée par le gouvernement israélien d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Un gouvernement qui connaît une crise politique profonde et qui, pour affirmer sa force, laisse libre cours à ses composantes les plus extrémistes dans la répression contre le peuple palestinien. Ce terrorisme d'État doit être stoppé par une condamnation unanime des instances internationales avec autre chose que de simples déclarations de regret ou de consternation. La suspension immédiate des aides financières et militaires dont bénéficie l'État criminel israélien de la part des États-Unis et de l'Union européenne doit s'imposer à tous. La protection du peuple palestinien sous occupation militaire doit être garantie de toute urgence. La communauté internationale doit agir et se décider enfin à sanctionner les crimes de ce régime de colonisation et d'apartheid comme elle est capable de le faire contre la Russie. Avec toutes les associations de solidarité, les partis, les syndicats progressistes et toutes les personnes pour qui les droits humains ont une valeur, nous poursuivrons notre mobilisation pour exiger des États européens, dont la France, qu'ils agissent enfin et sanctionnent ce régime criminel. Donc c'était une déclaration du Bureau national de l'association France-Palestine Solidarité. Et quelques jours après ce massacre, le 26 février, il y a 3 jours, deux frères, Hillel Menachem Yaniv, 21 ans, et Yagel Yaakov Yaniv, 19 ans, qui étaient en âge d'être enrôlés dans l'armée israélienne, ont été abattus alors qu'ils se trouvaient dans leur véhicule. Ils étaient originaires de la colonie israélienne de Har Braka, en Cisjordanie occupée. Et ils ont été abattus alors qu'ils se rendaient sans doute dans la colonie à bord de leur voiture. Le rabbin de la colonie, éducateur, il s'appelle Yaakov Hillel, éducateur et résident dans la colonie, a déclaré qu'il y avait un fort sentiment de colère et un grand sentiment de douleur. Ils étaient pleins de gentillesse, a-t-il déclaré. Et immédiatement, des appels à attaquer la ville dont était originaire, semble-t-il, le tireur qui a tué, des dizaines, des centaines de colons israéliens se sont regroupés et ont attaqué le village de Ouara, au sud de la ville de Naplouse. Des dizaines de colons se sont lancés dans un saccage violent dans une ville palestinienne. La pire violence de ce type depuis des années, qui a suivi la fusillade de 2 colons israéliens par un tireur palestinien, plus tôt ce dimanche. Ça, c'est un article de NBC News qui raconte qu'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux dimanche et géolocalisée par NBC News semble montrer une foule de colons israéliens priant devant un immeuble en feu. Un Palestinien de 37 ans, Sameh Abdallah Mahmoud Aktash, qui est un sauveteur qui s'était rendu récemment en Turquie pour aider à sortir des blessés, des victimes du tremblement de terre, a été abattu par des tirs israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé. Et 2 autres personnes ont été blessées par balles. Une personne a été poignardée par des colons et une autre a été battue avec une barre de fer, a déclaré le service médical du Croissant-Rouge palestinien. Près de 100 Palestiniens étaient soignés pour inhalation de gaz lacrymogène, a ajouté l'agence France-Presse. L'armée israélienne a déclaré lundi qu'elle avait envoyé plusieurs centaines de soldats supplémentaires dans la région et qu'une chasse à l'homme était en cours pour retrouver le tireur qui a tué les colons israéliens et le tireur qui a tué les Palestiniens. 10 Israéliens ont été arrêtés après le saccage de la ville de Hawara, a déclaré l'armée, mais rassurez-vous, tous ont été libérés. Certains membres de la coalition au pouvoir, considérés comme sans doute la plus à droite de l'histoire d'Israël, ont semblé louer la violence de dimanche comme moyen de dissuasion contre les attaques palestiniennes. Je regarde favorablement ce qui s'est passé à Ouara, a déclaré Tzvika Fogel, une députée du parti ultranationaliste Jewish Power, dans une interview à la radio de l'armée israélienne. Je veux voir tous les endroits où les terroristes sortent en train de brûler. Imaginez simplement ce que peut dire cette déclaration si d'autres l'a prononcée à propos, par exemple, si c'était une population juive qu'on souhaitait voir brûler, qu'est-ce qu'on dirait ? C'est exactement ce que disaient les nazis. Pendant ce temps, à Aqaba, les responsables israéliens qui rencontraient les responsables palestiniens sous l'égide de la Jordanie ont déclaré qu'ils cesseraient de discuter de toute nouvelle implantation pendant les 4 prochains mois et d'autoriser tout avant-poste pendant 6 mois. Alors un avant-poste, qu'est-ce que c'est ? C'est une colonie illégale installée en Cisjordanie ou aux alentours de Jérusalem, en toute illégalité, et quelque temps après, en principe, les autorités israéliennes la légalisent et cela devient une nouvelle colonie. Rappelons quand même que selon le droit international, toutes les colonies, avant-poste ou pas avant-poste, sont illégales. Les hauts responsables du gouvernement de Netanyahou, qui sont alignés sur le mouvement des colons extrémistes, ont suggéré que l'idée de suspendre quoi que ce soit était vouée à l'échec. Ainsi, le fameux ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a tweeté « Je n'ai aucune idée de ce dont ils ont parlé ou non en Jordanie, mais une chose que je sais, c'est qu'il n'y aura pas de gel de la construction et du développement dans les colonies, pas même pour une journée, c'est sous mon autorité. » Donc pendant que la galerie est amusée avec de pseudos pour parler de quoi que ce soit, de négociations, de discussions, d'appels pour calmer les choses, eh bien le ministre en charge de la colonisation, eh bien lui dit que de toute façon rien ne changera, au contraire. Smotrich, un chef des colons qui vit dans la région, a été mis en charge d'une grande partie de la politique de la Cisjordanie. Il avait appelé Israël à riposter sans pitié après le meurtre des deux frères. Tard dimanche, cependant, il fait appel à ses collègues colons pour qu'ils laissent les fonctionnaires faire leur travail. C'était un peu histoire de calmer les choses, de manière à ne pas être accusé publiquement d'avoir incité à ce que les Israéliens eux-mêmes appellent un pogrom. D'autres témoignages israéliens parlent même de nuit de cristal en référence à ce qui s'était passé au début de l'Allemagne nazie. Il est interdit de prendre la loi en main et de créer une anarchie dangereuse qui pourrait déraper et coûter des vies, a-t-il dit, pour essayer de se dédouaner de ses appels précédents à la violence. Voilà, pour l'association israélienne B'Tselem, le régime suprémaciste juif a mené un pogrom dans les villages autour de Naplouse hier. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est exactement ce à quoi ressemble le contrôle israélien. Les colons mènent l'attaque, les militaires les sécurisent, les politiciens la soutiennent. C'est une synergie. Le pogrom de Ouara était une manifestation extrême d'une politique israélienne de longue date. Il a été réalisé par l'État d'Israël. Et pour l'autre organisation Breaking the Silence, qui est composée d'anciens soldats et officiers de l'armée israélienne, hier soir, donc dimanche, des colons ont effectué un pogrom à grande échelle dans le village palestinien de Ouara, en Cisjordanie occupée, à la suite d'une attaque terroriste qui avait tué deux Israéliens plus tôt dans la journée. Des colons ont incendié des dizaines de maisons, de bâtiments et plus de 40 voitures dans le village, en fait c'est une centaine de voitures, chantant et criant des appels à la vengeance. Au moins un Palestinien a été tué, plus d'une centaine ont été blessés. Les colons ont prié le soir en regardant le village brûlé. Ils se sont déchaînés en toute impunité parce qu'ils savent que l'État est de leur côté. Leurs dirigeants font partie de la coalition ultranationaliste de Netanyahou, qui a transféré hier un énorme pouvoir sur la Cisjordanie au chef des colons et au député Bezalel Smotrich. Le même Smotrich qui, quelques heures avant le pogrom, avait liké un tweet de l'administrateur général du Conseil régional des colonies qui avait appelé à effacer Ouara de la carte. Pendant ce temps, l'armée israélienne aurait pu empêcher le pogrom de se produire. L'armée savait que le pogrom arrivait. Les colons distribuaient à l'avance des affiches appelant à une marche de vengeance, mais l'armée n'a pris aucune mesure. Les colons n'ont pas été arrêtés. Après le chaos, seuls deux colons l'ont été, et simplement parce qu'ils avaient molesté un soldat israélien. Le pogrom n'est pas une anomalie. Ces actes de violence sont permis par l'État, par la coalition au pouvoir, par la police et par l'armée israélienne, qui comprennent que sur le terrain, ce sont les colons qui sont aux commandes. Comme politique, l'armée israélienne a fermé tous les magasins de la route 60 à Ouara jusqu'à ce que la situation se calme. C'est aussi la politique de l'apartheid. Les colons juifs commettent des violences et les Palestiniens en paient le prix. Un petit moment avec Dominique Granche qui va nous chanter « Abattons le mur ».
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoigne de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire. Petit, ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria, Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Eh bien, toujours sur Radio Galère 88.4, toujours à l'écoute d'Une heure en Palestine. Je vous ai parlé de tout ça et maintenant, je vais vous parler d'autres événements qui vont avoir lieu à Marseille. Et en particulier, dans une semaine, le mercredi 8 mars, le film Yalla Gaza, un film du réalisateur Roland Nuriez, qui a été tourné en partie à Gaza, en partie en Europe. Le film Yalla Gaza, donc, sera projeté en avant-première au cinéma Le César, en présence du réalisateur, et avec sans doute une intervention de Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix. C'est un événement co-organisé avec la Ligue des droits de l'homme et l'Union juive française pour la paix, avec ces deux organisations étant membres du collectif Palestine en résistance. Donc ça, c'est pour le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, avec une après-midi sur le Vieux-Port, avec une manifestation, et après la manifestation, eh bien, on prend le tramway ou on prend le métro et on va à Castellane, au cinéma Le César, pour voir Yalla Gaza. Et puis le 10 mars, donc vendredi prochain, à la Cité de la Musique, c'est le duo palestinien Sabil qui vous fera rêver des collines de Cisjordanie, qui vous entraînera au cœur de la ville de Jérusalem, dans les ruelles de la vieille ville. Et puis, fin avril, le 28 avril exactement, au Hangar, ce sera la projection du film de Marie Gignès, Une mémoire contre l'oubli, dans laquelle plusieurs Palestiniens de différentes communautés religieuses, on va dire un Samaritain, c'est-à-dire une secte juive, un petit groupe de juifs qui vient à Naplouse, mais aussi des chrétiens, des musulmans, témoignent dans son film « Contre l'oubli ». Et puis j'avais très envie de vous parler aussi de la décision de la mairie de Barcelone, et c'est au début février. Avec une lettre de la maire de Barcelone envoyée au Premier ministre israélien, et dans laquelle elle dit « En tant que maire de Barcelone, je porte à votre connaissance que récemment, une centaine de structures sociales et d'associations basées dans la ville ont soumis une pétition au conseil municipal sous le nom de Barcelone avec l'apartheid, non. Barcelone avec les droits humains, oui. » Cette pétition a été réalisée à travers un processus participatif réglementé qui, compte tenu des milliers de signatures des habitants de Barcelone, implique l'obligation de donner une réponse institutionnelle à leur demande spécifique, à savoir dénoncer le crime d'apartheid contre le peuple palestinien, donner une impulsion aux entités palestiniennes et israéliennes qui œuvrent pour la paix sur le territoire et rompre les accords de jumelage que Barcelone maintient avec la mairie de Tel Aviv, car ils ne répondent ni au contexte ni aux objectifs qui étaient ceux de leur signature il y a 25 ans maintenant. La lettre reprend les rapports du rapporteur général des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Il s'agit de Michael Link. Cette occupation, dit-il, a été menée en violation du droit international. Les politiques d'annexion des territoires, la construction de colonies et la violation des droits de l'homme à l'encontre de la population palestinienne constituent une violation de la 4e Convention de Genève de 1949 et de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1967. Et puis, sont cités aussi dans la lettre Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui a écrit en 2021 que la domination et l'oppression structurelle du peuple palestinien au moyen d'une occupation indéfinie pourrait constituer un apartheid. Il y a aussi la déclaration de Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix, en 2014, qui disait, je sais de première main, qu'Israël a créé une réalité d'apartheid à l'intérieur de ses frontières et à travers son occupation. Et puis, des signataires d'un document dénonçant la situation qui a été rejoint par d'autres lauréats du prix Nobel de la paix, tels que Desmond Tutu, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel ou Betty Williams. De même, les organisations, c'est toujours la lettre envoyée par la maire de Barcelone. De même, les organisations reconnues des défenses des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, Amnesty International et l'association israélienne B'Tselem, ont dénoncé que les pratiques de l'État d'Israël contre la population palestinienne peuvent constituer des crimes contre l'humanité, d'apartheid et de persécution. En ce qui concerne la Catalogne, le Parlement lui-même a approuvé à la majorité une résolution qui qualifiait les pratiques d'occupation israélienne d'équivalentes à l'apartheid en juin dernier. Toutes ces violations, tous ces crimes commis par l'État d'Israël, eh bien, ont amené la maire de Barcelone à... En tant que maire de Barcelone, ville méditerranéenne qui défend les droits humains, je cite, « Je ne peux rester impassible, face à la violation systématique des droits fondamentaux de la population palestinienne. Ce serait une grave erreur d'appliquer une politique de deux poids deux mesures et de fermer les yeux sur une violation largement vérifiée et documentée par les organisations internationales depuis des décennies. Je suis consciente que la population civile israélienne a également subi des attaques et des épisodes violents, et ne doutez pas qu'en tant que maire, je condamne et je condamnerai tout type de violence contre la population civile de n'importe quel pays. Pour toutes ces raisons, je vous fais savoir que j'ai décidé de suspendre temporairement les relations avec l'État d'Israël et avec les institutions officielles de cet État, y compris les accords de jumelage avec la mairie de Tel Aviv, jusqu'à ce que les autorités israéliennes mettent fin à la violation systématique des droits humains à l'encontre de la population palestinienne et respectent pleinement les obligations qui lui sont imposées par le droit international et les différentes résolutions des Nations Unies. Cette mesure affecte uniquement et exclusivement les relations institutionnelles de la mairie de Barcelone avec l'État d'Israël et ne concerne en aucun cas ses citoyens. Il est essentiel de différencier à tout moment les politiques et les actes d'un État, dans ce cas l'État israélien, de toute la population juive et de sa culture. Barcelone est une ville fière de son héritage juif ainsi que des communautés juives qui font aujourd'hui également partie de la ville. En tant que maire, je me tiendrai aux côtés de ces communautés face à toute manifestation d'antisémitisme, écrit-elle. Enfin, je voudrais vous informer que la mairie de Barcelone renforcera son soutien et sa collaboration avec les entités palestiniennes et israéliennes qui travaillent à la construction de la paix dans les territoires palestiniens occupés. Cordialement, Ada Kaulow Balano, et cela a été traduit par nos camarades de BDS Montpellier. Et cette décision courageuse, eh bien, elle a été saluée par 55 personnalités du monde entier qui... Alors, je vous cite Angela Davis, philosophe, chercheuse, Annie Ernaux, auteure, lauréate du prix Nobel, Arunda Tiroi, auteure, George Smith, biochimiste, lauréat du prix Nobel, Jody Williams, militante des droits humains, prix Nobel, Judith Butler, philosophe, écrivaine, Ken Loach, réalisateur, Mairead Maguire, militante pour la paix, prix Nobel, Marianne Faithfull, musicienne, Marc Ruffalo, acteur, Myriam Margolis, actrice, Naomi Klein, auteur, Cosi Swivile, alors j'ai du mal à prononcer son nom, en tout cas on va dire Mandela, député Afrique du Sud, c'est le petit-fils de Nelson Mandela, Nora Cortinas, cofondatrice des Mères de la Place de Mai en Argentine, Peter Gabriel, musicien, Ronnie Castril, ancien ministre dans le gouvernement de Nelson Mandela, Rushama Martone, fondatrice de Médecins pour les droits de l'homme en Israël, Suzanne Sarandon, actrice, et bien d'autres soutiens, dont Noam Chomsky, le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquival, Norit Peled, israélienne, et Alain Grech, en France. Et dans le monde entier, eh bien, des groupes juifs applaudissent la maire de Barcelone. Le collectif juif international pour la justice en Palestine, IJCJP, est composé de groupes et d'individus juifs qui vivent dans 15 pays. Depuis de nombreuses villes du monde entier, nos membres célèbrent la décision de la maire de Barcelone, Ada Kaulow, de couper les liens avec les États d'Israël jusqu'à ce que chaque personne en Israël-Palestine jouisse pleinement de ses droits, de sa sécurité et de son autodétermination. Les villes sont des acteurs essentiels de la justice sociale car elles sont les lieux de notre vie quotidienne. Des personnes de toute ethnie et identité partagent les rues, les écoles, les bus, la culture et les événements de nos villes. Nous formons des liens, nous nous entraidons en cas de besoin et nous enrichissons la vie urbaine de notre diversité. Ce n'est pas le cas en Israël où l'apartheid répartit les droits, l'espace, les services publics, la protection, la justice et les perspectives de vie selon des critères ethniques. Tant que les villes israéliennes ne seront pas partagées, nous ne devons pas normaliser la violence structurelle de l'apartheid. Nous remercions la maire et les citoyens de Barcelone d'avoir refusé de détourner le regard des abus qu'ils ne toléreraient pas dans leur propre rue, grâce à des actions fondées sur les principes comme ceux de Barcelone. Nous avons le pouvoir d'exiger le changement. Nous sommes tristes de constater que la maire Kaulow a été attaquée pour avoir affirmé les droits humains et politiques universels. Le fait que tous les membres de la société doivent vivre selon une seule et même loi est à la fois un enseignement juif traditionnel et un pilier de la justice laïque. Nous sommes solidaires des Barcelonais qui ont agi pour le faire respecter. L'exemple de Barcelone rappelle à chacun d'entre nous de redoubler d'efforts au niveau local pour devenir la prochaine ville qui défend la justice. Et cela est signé par International Jewish Collective for Justice in Palestine, Alternative Jewish Voices en Nouvelle-Zélande, South African Jews for Free Palestine en Afrique du Sud, Jews Say No aux États-Unis, Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East en Allemagne, Zokrot en Israël, International Jewish Anti-Zionist Network, IJAN, en Argentine, International Jewish Anti-Zionist Network, IJAN, en Espagne, Boycott from Within, les citoyens israéliens pour le boycott, UJFP, French Jewish Peace Union, l'Union juive française pour la paix, Jewish Network for Palestine, au Royaume-Uni, Jewish Voice for Peace, aux États-Unis, Jews for Palestine en Irlande, Independent Jewish Voice au Canada, Jewish Against the Occupation en Australie, Jewish Voice for Labour au Royaume-Uni. Et enfin, dites au maire Colau, merci de défendre les Palestiniens. Un petit texte de Jewish Voice for Peace aux États-Unis. En tant que juif et personne d'opinion aux États-Unis, nous applaudissons la décision récente du maire de Barcelone, Ada Colau, de couper les liens avec Israël au sujet de ses crimes contre les Palestiniens commis dans le cadre de l'apartheid. Nous dénonçons les accusations d'antisémitisme portées contre la mairesse Colau et sommes solidaires avec elle et les militants locaux qui ont mené à cette décision historique. Ce sont les dirigeants de villes courageux, activés par des organisations de base, qui ont été les premiers à couper les liens avec l'Afrique du Sud d'apartheid. Nous croyons que Barcelone n'est que la première d'une série de villes qui se lèveront pour dire « pas de lien avec Israël tant que les Palestiniens ne seront pas libres ». Avec une large base de juifs et d'alliés multiraciaux et intergénérationnels, nous savons que la justice est indivisible. Notre avenir est lié les uns aux autres et notre sécurité grandit grâce à la solidarité. L'appel à la justice pour les Palestiniens est lié à l'appel de ceux qui luttent pour un monde meilleur, plus juste et plus durable, où l'égalité et la dignité sont accordées à tous les peuples, sans exception. Merci, Madame la maire Colau, pour votre position de principe. Alors, juste une question. Marseille, en violation de tous les textes internationaux, a établi, entre M. Jean-Claude Gaudin et le maire de Jérusalem à l'époque, M. Lubinsky, un accord de coopération en 2006. Cet accord est illégal d'abord parce qu'il ne respecte pas les principes du droit international qui ne reconnaît pas que Jérusalem Est est annexée et depuis une quarantaine d'années maintenant, ce qui constitue une violation du droit international. Donc notre ville, à travers cet accord, est en position de violer le droit international. De plus, il y a un jumelage, pas vraiment très actif, avec la ville de Haïfa. Et il y a un silence terrifiant de la ville de Marseille lorsqu'on lui demande de nouer des liens avec la ville de Gaza, ce qui serait déjà un premier équilibre entre la position à Haïfa et Gaza. Un silence étourdissant, et parce que derrière on apprend que Gaza, c'est Hamas. Alors on ne peut pas avoir d'un côté un refus de collaborer avec une municipalité qui a été élue, et d'un autre côté de collaborer avec l'apartheid israélien. Donc il y a un moment où M. Payan et le conseil municipal, la majorité du conseil municipal, doivent être en capacité de prendre une décision. Et cette décision, c'est de rompre tout lien avec Jérusalem, avec la municipalité de Jérusalem et avec la municipalité de Haïfa, comme l'a fait Barcelone, jusqu'à ce que l'État d'Israël respecte enfin le droit international et accorde tous les droits au peuple palestinien. On attend donc de M. Payan, non pas de faire des choses extraordinaires, mais simplement d'avoir autant de courage, d'avoir une position aussi juste que la maire de Barcelone. Et on fait maintenant une nouvelle pause. Il est 18h50 et vous êtes sur Radio Galère 88.4. Beaucoup de choses dont on devrait parler, en particulier de ce dernier scandale sur l'utilisation de faux comptes Facebook, la diffusion de fake news à grande échelle à partir d'une société israélienne qui, entre autres, a manipulé à travers d'autres intermédiaires un journaliste de BFM TV qui a perdu sa place. Mais ça, on en parlera dans une prochaine émission. Il y a aussi tout ce qui concerne le logiciel d'espionnage israélien Pegasus. Très bel article de Shirever, un économiste israélien qui vit maintenant en Allemagne. Mais pour terminer, cet article de Pierre Barbancé sur ce qui s'est passé en Cisjordanie récemment. Une petite synthèse, la grande ville de Naplouse, au centre de la Cisjordanie, panse ses plaies. Mercredi 22 février, en plein milieu de la journée, un raid de l'armée israélienne a fait 11 morts. Et parmi eux, un journaliste de Palestine TV, Mohamed El-Khatib. Alors que les rues étaient pleines de monde, les véhicules israéliens ont encerclé un pâté de maisons et ont commencé à assiéger une habitation dans laquelle se trouvaient deux résistants palestiniens. Les soldats n'ont pas hésité à tirer des roquettes et à utiliser des drones, un déploiement de force qui vise officiellement à éradiquer toute forme de résistance. Le ministère israélien de la Défense, toute honte bue, a salué le courage des forces israéliennes à Naplouse. Ces opérations se multiplient du nord au sud de la Cisjordanie. Le 26 janvier, 9 personnes étaient tuées dans le camp de réfugiés de Jenin, au nord. Jeudi, un jeune Palestinien de 22 ans mourait après avoir reçu une balle en pleine tête dans le camp d'Al-Aroub, près d'Hébron. Depuis le début de l'année, ce sont donc 62 Palestiniens qui ont ainsi été abattus. Mais en réalité, les deux piliers fascistes de la coalition de Benjamin Netanyahou, ses ministres Itamar Ben-Gvir en charge de la sécurité nationale et Bezalel Smotrich aux finances, cherchent tout en assassinant a provoqué les Palestiniens, les désignant comme terroristes. Ben-Gvir a intensifié les démolitions de maisons et les expulsions à Jérusalem, ce qui pourrait enflammer la ville en même temps que la Cisjordanie occupée. C'est le deuxième volet de la stratégie du gouvernement israélien en s'affranchissant de tout contrôle juridique, c'est-à-dire en annulant la possibilité de la Cour suprême, en supprimant la Cour suprême. Il met en place une nouvelle structure visant à rendre concrète l'annexion des territoires palestiniens sans avoir à rendre des comptes. Les Palestiniens, eux, sont sans recours. Ils se trouvaient jusqu'à présent, les territoires palestiniens se trouvaient sous la tutelle du ministère israélien de la Défense, mais les changements opérés ne laissent plus aucun doute. Les pouvoirs de Smotrich s'étendent désormais aux affaires civiles en Cisjordanie, car il devient ministre au sein du ministère de la Défense. Il a maintenant autorité sur la planification et la construction des colonies, qu'il entend étendre rapidement. Il gère le statut de ce qu'on appelle les avant-postes illégaux, c'est-à-dire des colonies érigées sans accord gouvernemental, puis légalisées ultérieurement, et il règle les questions d'attribution de terres. Ce dernier point est essentiel. En cas de dépossession de leurs terres, les Palestiniens saisissaient jusqu'à présent la Cour suprême pour faire respecter leurs droits. Ils avaient parfois gain de cause. Si cette Cour suprême perd ses prérogatives, ils n'auront plus aucun recours. Le fait que le ministre des Finances possède également des compétences de l'administration des territoires palestiniens occupés signe l'annexion de facto. Le conseil des Yeshas, c'est-à-dire le représentant des colonies et des colons, ne s'y est pas trompé, y voyant une nouvelle importante pour le mouvement d'implantation. C'est-à-dire que ce sont violations du droit international sur violation du droit international, et tout cela face au silence effrayant de la communauté internationale, qui est capable de sanctionner la Russie pour ses violations du droit en Ukraine, mais qui, honteusement, se tait au bout de 70 ans de violation des droits du peuple palestinien. Alors on vous dit, yallah, on continue la lutte, on continue à soutenir la résistance du peuple palestinien, quelle que soit cette forme de résistance, n'en déplaise aux fâcheux. Nous n'allons pas arrêter et nous vous invitons à venir dès le 8 mars à 19h30 au César pour venir voir ce film magnifique Yalla Gaza, et pour nous soutenir lorsque nous allons lancer cette campagne qui vise à cesser toute collaboration de notre ville avec l'apartheid israélien. À bientôt.